Chapitre 4. Le lendemain de cette soirée, en tout point mémorable, et à la première heure qu'autorise la décence, Maria est dans le hall de l'hôtel, comme je l'y ai invitée la veille en la quittant. Je suis prêt, moi aussi, impatient de la revoir, d'autant que je sais son frère retenu à Weimar pour la journée. Ma présence sur le site de la foire n'étant requise que dans 1 heure et demie, je dispose d'un long moment pour reprendre la conversation de la veille. À la vérité, je me passerai bien de revoir et d'évoquer le rigide officier Soprusich. Mais Maria a d'autres intentions. Elle aimerait tant que nous fassions l'effort de nous connaître davantage, son frère et moi. Cela semble lui tenir si fort à cœur que je m'oblige à l'écouter. Alors elle raconte. Elle raconte tout ce que le midship a gardé pour lui hier au soir. Son engagement, à 15 ans, sous la bannière d'un corps franc, le Freikorps Halle. Ce n'est encore qu'un enfant. Mais il se fait vite remarquer comme estafette et, à l'âge où les jeunes gens font leur première arme en amour, et s'expriment au propre comme au figuré dans le tumulte révolutionnaire qui déchire Halle. Dans la cité natale d'Eindel se joue, cette année-là, une toute autre musique que le fameux carnaval. Un soviet d'ouvriers et de soldats s'est emparé du pouvoir communal et n'entend le céder que sous la contrainte des armes. L'Allemagne d'alors, il y a 5 ans seulement, compte encore assez de cols blancs et d'employés prêts à risquer leur vie contre les spartakistes. Aussi, le sang que les Français n'ont pas répandu outre-Rhin coule-t-il généreusement dans les caniveaux de la Révolution et de la Contre-Révolution. Du sang allemand, rien que du sang allemand, évoque Maria, que ce constat obsède comme une déchirure irréparable. Le comble de la férocité, se souvient-elle, pour moi, est atteint en mars 1920. Son frère et elle ne se contente plus d'en être les témoins, mais en deviennent les acteurs. Tandis qu'elle s'est enrôlée dans un poste de soins aux blessés, lui est assistant technique dans le service de secours. Elle a 19 ans, Reinhard 16. Durant 3 jours, la bataille fait rage au centre même de la ville. En 3 jours seulement, les morts se comptent par centaines, faisant mériter à Halle le qualificatif de « rouge sang de l'Allemagne ». En somme, commentais-je, saisi de compassion, il n'y avait pas de plus cruelle expérience à faire dans cette Allemagne de tous les dangers. Sincèrement ému, je plonge mon regard dans les yeux embués de Maria. Puis je confesse, navré. Je comprends à vous écouter combien nous, les ennemis de l'Allemagne qui croyons savoir, mais n'observions que de loin, avons sous-estimé les épreuves que vous avez traversées. Jamais je n'avais réalisé, comme je le fais à l'instant, que pour vous l'après-guerre fut plus violente encore que n'avaient été les hostilités. À cette époque même, la France était saignée à blanc, certes, mais elle retrouvait peu à peu ses couleurs. Strasbourg et Metz, revenus dans le giron national, les paysans du Nord, retrouvant leurs champs, certes truffés d'éclats d'obus et de mines, mais prêts à renaître, les veuves menant leurs enfants à l'école, les mutilés se glissant dans les autobus, où on leur cédait la place, tout cela, au-delà des meurtrissures, c'était la vie qui reprenait. Alors que l'Allemagne, votre Allemagne, indemne jusque-là de toute destruction, épargnée en quelque sorte, plongeait brutalement dans la fureur des combats fratricides. Au ciment des yeux de ma belle compagne, je comprends combien ces mots la touchent, et l'esquisse un sourire, empreint de reconnaissance. Je poursuis. Pendant la guerre, on avait le respect de l'adversaire, on s'interpellait parfois d'un parapet à l'autre, il arrivait même que l'on fraternise. La guerre civile, ce n'est pas ça. C'est un affrontement entre voisins, entre frères, qui engendre que de la haine, une haine inextinguible, impitoyable, affreuse de bêtises et de cruauté. C'est exactement cela. Nos regards se croisent pour un court instant de silence. Puis Maria m'explique. Nous avons vécu la guerre comme une lointaine épreuve. Nous ignorions, bien sûr, et voulions ignorer ce que les Français subissaient. Nous avons cru successivement à la victoire, puis à la trahison, jamais à la défaite. Et les Rouges, eux, comment vivaient-ils tout ça? Les Rouges, ils posaient des bombes dans leur propre pays, alors même que ce pauvre pays se battait hors de ses frontières. Ils trahissaient, ça oui. Les Spartakistes ne vivent pas dans notre monde. Vous savez, le monde des usages, de la propriété privée et du gemütlich. Pour eux, la seule finalité, c'est la révolution. Voulez-vous dire qu'ils veulent la révolution pour la révolution? Précisément. Aucun régime, aucun système de gouvernement ne leur convient jamais. Et pour cause. Leur unique aspiration est la destruction. Ils se moquent bien de la défaite ou de la victoire de l'Allemagne. Ils souhaitent le chaos, car ce qu'ils visent, c'est la faillite de l'Empire allemand. ma jeune amie s'exprime avec recherche et dans cette analyse de la situation et des intentions politiques des uns ou des autres, elle manifeste une maîtrise qui m'étonne. Ce n'est plus la jeune femme conventionnelle d'hier soir, celle qui s'exprimait avec talent sur la musique contemporaine ou la dernière pièce d'Heinrich von Kleist. C'est une militante qui adhère sans réserve à une idéologie dont je ne partage guère les prolégomènes. Aussi, à l'écouter, je balance entre admiration et méfiance. J'ai la curieuse sensation que ce discours lui est inspiré par une relation proche, et je devine laquelle. Votre frère partage-t-il votre analyse, Maria ? Parce qu'enfin, si ce que vous me dites est vrai, rien n'est plus urgent que de détruire la vermine rouge. Or, cette vermine rouge s'appuie sur le peuple, tire argument de la misère du peuple pour justifier son action et même son existence. Les malheurs des plus humbles, c'est cela qui constitue le vrai terreau de la révolution spartakiste. Vous pouvez dire « révolution communiste, Gottfried », car la misère du peuple, si elle a un terreau, sert surtout de prétexte pour semer le chaos. Les soviétiques sont à peine cachés derrière cette palissade de haine, vous savez. Et quand on connaît, un tant soit peu Lénine, on ne peut douter de sa capacité à embraser l'Europe tout entière. « Lénine vient de mourir, Maria », objectai-je doucement. « Et alors, croyez-vous que la troïka qui lui succède est de quoi rassurer ? Staline, Kamenev, Zinoviev ? Cela vaut mieux que Trotsky tout de même. » Je suis aussitôt renvoyé à mes chères études. Avec un sourire gourmand qui désarme toute prétention à la contradiction, elle me glisse quelques remarques que j'aurais dû formuler moi-même. « Cher Gottfried, vous ne pouvez tenir pour rien le 5e congrès de l'Internationale communiste en mai dernier à Moscou. Ses chers camarades ont décidé de bolcheviser l'ensemble des partis communistes. Dès lors qu'ils sont communistes, ces gens, insiste-t-elle en donnant à ce terme une nuance de mépris, qu'ils soient allemands, français ou grecs, sont désormais soumis aux oukases du Kremlin, d'une puissance étrangère donc. Et c'est le moment que choisit votre Édouard Herriot pour annoncer à Tchitcherine son intention de rétablir les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Le vôtre Édouard Herriot me fait réagir. Je ne suis pas français, Maria, rappelez-vous, je suis suisse, et même suisse-allemand. Loin de moi l'idée de vous offenser, répond la jeune femme dans un sourire de conciliation. Et de toute façon, je ne déteste pas les Français, en particulier quand ils font de la belle musique. Mais avouez qu'il est tout de même curieux que le président du Conseil des ministres, professeur d'histoire de surcroît, fasse ces déclarations alors même que le Parti communiste de son pays exclut Boris Souvarine, qui a eu le seul tort de dénoncer la bolchevisation du parti et que son hebdomadaire, Clarté Universitaire, publie sans honte un dossier sur les généraux rouges et leurs 1 900 000 victimes. La jeune femme, décidément, est bien informée. Les Français raffolent des formules égalitaires, mais je ne pense pas qu'ils adhèrent jamais aux excès du bolchevisme. Les Français peut-être pas, mais les Allemands le pourraient, surtout si les Juifs les y encouragent. Cette fois, je sursaute. Les Juifs ? Mais enfin, Maria. Trotsky est juif. C'est précisément lui que la Troïka a mis sur la touche. Vous n'allez tout de même pas croire à la fable d'un complot juif qui circule dans certains milieux. Je me retiens de nommer ces milieux, de peur qu'elle ne m'annonce qu'elle en fait partie, justement. Mes scrupules s'évanouissent bien vite. Vous avez l'air d'ignorer que Kamenev et Zinoviev sont juifs. Et vous ne semblez pas réaliser qu'ils vont avaler tout cru le jeune Staline. Il est plus âgé qu'eux. Oui, mais moins expérimenté. Croyez-moi si vous voulez, mais le danger réside dans l'implication massive de tous ces juifs russes dans un gigantesque mouvement aux ambitions mondiales. D'ailleurs, leurs dissensions ne sont qu'apparentes. Kamenev est le beau-frère de Trotsky. Je l'ignorais. Maria a la sagesse de ne pas triompher. Je l'ai appris par Reynard. Il est très bien informé. Vous savez, est particulièrement calé sur la Russie. Enfin, l'Union soviétique. Nous y voilà. L'éloge du frère s'inscrit dans ces valeurs que Maria érige au rang de vérité immuable. Vertu familiale, hérédité, mais aussi idées nouvelles développées par ces socialistes qui se disent nationaux, voire, comme ironisent leurs adversaires, ces nationaux qui se disent socialistes. Ma pensée, un instant, quitte le champ de notre débat. Le problème ne réside-t-il pas précisément là, me demandai-je soudain. Dans la sincérité ou le calcul des nazis, quand ils affirment parler au nom du peuple, un peuple qui prétend protéger, encourager, exalter. S'agit-il de soutenir le peuple, de l'aider à se redresser, ou n'est-ce qu'un calcul pour en définitive se l'approprier et l'utiliser? La question vaut autant pour le parti nazi que pour les spartakistes, n'en déplaise à Maria. Je me garde évidemment de partager mes réflexions avec celle qui, en cet instant, me rappelle à notre conversation. « Notez bien, cher Gottfried, que je n'ai rien contre les Juifs. Nous avons même été suspectés d'en être. Qui, nous ? Nous, les Heydrich. On nous a soupçonnés d'être d'ascendance juive. Notre père a dû se défendre d'une telle accusation. Accusation ? Une calomnie, si vous préférez. En fait, le beau-père de notre père Bruno se nommait Sus, patronyme souvent porté par les Juifs, même si lui-même, il ne l'était pas. De plus, il n'était pas non plus notre grand-père. Alors, comprenez que lorsqu'un des camarades de collège de Reinhardt s'est moqué de lui en le traitant de juif en uniforme de marin, l'insulte a dû être lavée dans le sang. Dans le sang ? Vous voulez dire que votre frère l'a tué ? Tué, non. Blessé, oui. Le pauvre type a perdu un œil. La jeune femme énonce le fait aussi paisiblement qu'elle commenterait l'actualité musicale. Elle ajoute aussitôt, très fière, que l'enseigne de vaisseau Heydrich est un escrimeur hors pair. Je suis un peu secoué par notre conversation, mais désireux d'écarter tout nuage et me rappelant le plaisir que j'ai eu moi-même à croiser le fer du temps que j'étais à Paris, je demande à Maria si son frère accepterait de me donner une leçon. Posez-lui la question vous-même. A priori, je ne lui vois aucune raison de refuser. Il aime tellement ce sport. Et puis, je peux bien vous le confier, il vous trouve à la fois sympathique et intéressant. Si je peux comprendre le sympathique, à tort peut-être, je demeure perplexe quant à l'intéressant. Quel type de sentiment, voire de calcul, peut bien éveiller un jeune banquier suisse chez un officier de marine allemand ? Je le saurai bientôt, puisque Maria et moi convenons de nous retrouver tous les trois ce dimanche qui tombe dans 2 jours. Je propose d'inviter mes nouveaux amis à déjeuner, eux en profiteront pour me faire connaître les bords de la salle. Et Maria me promet une de ces auberges où nous dégusterons du chevreuil à la confiture de groseille arrosée du meilleur vin de Franconie. Il est temps à présent de me rendre à la foire. Notre baiser d'au revoir me replonge instantanément dans l'enchantement de la veille. Repoussé au rayon des accessoires usagés, l'essentiel des propos que nous venons d'échanger. Maria n'est plus la militante enflammée que j'ai entreaperçue. Elle est cette fraîcheur blonde, vulnérable, troublée comme je le suis moi-même, qui se pend à mon cou et que je rejoindrai ce soir dans mes fantasmes nocturnes qu'il serait impudique de consigner ici. Ce dimanche, la foire fait relâche. Les clients venus de toute l'Europe se voient invités par les Reichsbüros à aller humer les dernières senteurs d'automne d'une campagne jaunissante, comme à se restaurer dans l'un ou l'autre des guest houses qui font la réputation gastronomique de la région. Saucisses, jambon, boulettes de viande, goulash y exaltent leur parfum. La bière y coule d'abondance, mousseuse, légèrement amère. Pour peu, on en oublierait que cette Allemagne de plaisir fort et simple a perdu une guerre avant d'en subir une autre. Fratricide celle-là. D'ailleurs, les affaires reprennent. En dépit ou à cause d'une monnaie qui s'effondre, les carnets de commandes se remplissent. La qualité des fabrications, made in Germany, n'y est pas pour rien. Flairant les bonnes affaires, les banquiers se précipitent. Tel est le sens de la mission impartie par mon père. Si je ne dispose ni du pouvoir d'attribuer des crédits, ni même d'en proposer, je suis chargé d'enregistrer d'éventuelles demandes et surtout de recenser et d'analyser les opportunités. Ce type de travail me convient à merveille. Je ne viens pas pour rien de la calme Helvétie. Au contraire des Français, nous n'avons, nous les Suisses, guère de dextérité dans l'échafaudage de théories sur le fonctionnement de l'économie, pas plus que nous n'avons l'aptitude germanique à les mettre en pratique. Mais, en modestes praticiens que nous sommes, appliqués et besogneux, nous plaçons notre ambition dans l'espérance concrète de gagner de l'argent. C'est ainsi que, au cours de ces 2 jours, j'identifie une filature à Apolda, une scierie à Dresde et une manufacture d'armes de chasse à Solingen, dont la marge de développement laisse entrevoir de confortables profits et pour lesquels un crédit immédiat s'avérerait décisif. J'écarte en revanche les sollicitations des fabriques de conserves alimentaires et de cosmétiques dont les perspectives me paraissent plus lointaines et plus aléatoires. C'est donc l'esprit plein de chiffres et de graphiques que je me lève ce dimanche matin, aussitôt qu'à l'accoutumée. Je fais bien, car à peine ai-je avalé mon dernier croissant, que s'annoncent dans le hall les Heydrich, frères et sœurs, tous deux sur leur 31, comme on l'était naguère quand on respectait le rite dominical, et comme le sont plus les gens de Paris ou de Zurich qui tiennent ce rite pour désuet, inadapté à notre époque de liberté. À mes yeux amusés, ils sont ainsi vêtus, avec fraîcheur et un charme certain. Si je n'en dis rien, je crois que j'en souris encore lorsque d'un geste généreux, le grand jeune homme blond nous invite à monter dans sa Daimler, puis s'installe au volant. Je garde de cette promenade automobile un souvenir exquis. Maria et moi sommes assis à l'arrière côte à côte, comme nous l'étions, voici 3 mois à peine, à l'Opéra Garnier. 3 mois qui me paraissent être des années, et à ces différences près, que nul accoudoir ne nous sépare plus. L'exiguïté de la banquette nous contraint, le mot n'est pas approprié, à des effleurements de bras, d'épaules et de jambes qui me donnent le frisson. Maria, apparemment, y prend goût, elle aussi. Je dois me forcer à ne pas profiter des circonstances au-delà de la bienséance. Il est si délicieux de goûter sa présence, de humer son parfum, de frémir au plus léger mouvement de son corps troublé. Tout en conduisant à une vive allure, Reinhardt me fait les honneurs du paysage. Il connaît bien cette région et trouve les mots justes pour la célébrer. J'admire cette capacité à sublimer l'ordinaire, à faire de la prairie la plus uniforme, un écrin où s'enchassent ruisseaux et troupeaux. D'une grange délabrée en péril de s'effondrer sous le poids des fenaisons, il fait un témoignage éloquent de l'ingéniosité de nos ancêtres. Il lâche le volant d'une main, montre de l'autre ce beau pays en ce qu'il a de plus charmant. Gentiment, le véhicule tangue au rythme de ses démonstrations. Nous n'en éprouvons nulle crainte, Maria et moi, d'autant qu'insensiblement nos corps se rapprochent et que je ressens cette proximité comme une chaleureuse promesse. Peu de voitures nous croisent, aucune ne nous double. Reinhardt met un point d'honneur à ne laisser personne nous donner le pion. C'est un peu ridicule, peut-être. En tout cas, révélateur d'un comportement de compétiteur. Mais je ne m'attarde pas sur cet aspect du jeune homme qui me fait le cadeau d'être si proche de sa sœur. Le Daimler a quitté la grande route. Elle se faufile maintenant sur des chemins à peine carrossables. Les chaos nous propulsent l'un vers l'autre, Maria et moi, et nous en rions jusqu'à ce que je me risque à passer un bras autour du cou de ma compagne afin, assurai-je, de mieux nous protéger. Dans le rétroviseur, Reinhardt n'a rien manqué de mon geste osé, mais ne semble pas s'en offusquer. Je lui en suis reconnaissant. Une sorte de clairière s'ouvre au fond d'un bosquet de bouleaux. La salle coule derrière, on la devine plus que l'on la voit. Toiturée de chaume, une bâtisse ventrue habille l'espace ouvert. Tout à la joie de me la faire découvrir, notre chauffeur bondit hors de l'auto, ouvre grand les bras et s'écrie « Bienvenue, cher Gottfried, cette fois, nous voici vraiment en Allemagne. » Il y a dans ce cri toute la conviction, tout l'attachement d'un jeune homme au Vaterland. Alors, je ne sais trop pourquoi, nous nous précipitons l'un vers l'autre et nous étreignons comme deux frères. La scène, qui pourrait sembler grotesque, n'est que pure, émouvante. Je ne peux l'évoquer sans qu'aujourd'hui encore, les larmes ne me montent aux yeux. Amour de l'Allemagne, transfert sur le cadet d'un élan contenu envers la sœur aînée, explosion d'une fraternité nouvelle, tout cela se confond dans mon cœur en cet instant et je n'ai jamais cherché à démêler cette pelote. Il me suffit aujourd'hui, à travers ces lignes qu'il ne lira jamais, d'affirmer mon amitié pour Reinhardt Heydrich, de dire ma fidélité au souvenir du jeune homme enthousiaste et pur qu'il fut un jour, quel qu'ait été son parcours depuis, quel qu'aurait pu être et dû être son destin. Du repas que j'offre à mes amis ce jour-là, dans la confortable auberge des bords de la salle, dont j'ai oublié le nom, je ne conserve qu'une sensation ténue, celle d'un doux moment passé avec deux êtres chers, partage d'un repas simple et délicieux, communion parfaite avec une toute jeune femme qui fait éclore en moi une fleur semée quelques mois plus tôt que l'on appelle amour. D'un accord tacite, nous bannissons tous trois les propos sérieux auxquels le feutré de l'Opéra Hôtel offrait un cadre choisi. Nous nous bornons à l'évocation joyeuse des souvenirs d'enfance. Maria se révèle être une narratrice d'une drôlerie consommée. À Reinhardt comme à moi, décidément bon public, elle arrache des fous rires qui font se retourner les convives des tables voisines. L'anecdote la plus croustillante est celle du plongeon dans la salle. Avec une bande de collégiens, Maria faisait de la luge sur une pente enneigée par endroits verglacés qui se terminait par un faux plat au bord de la rivière. Le jeu consistait à se laisser glisser à toute vitesse et à virer avant les eaux glacées. Au plus fort de la patrie, survient le petit frère, Reinhardt, qui voulant jouer avec les grands, demande qu'on le laisse s'initier à ce sport. Consciente des risques, Maria lui propose de monter avec elle sur la luge plutôt. Le frère et la sœur s'élancent de toute leur vitesse, sautent en pleine course sur le petit bolide de bois qui file sur la pente, puis, quand arrive le faux plat, Maria, montée derrière, plante un talon dans la neige pour faire tourner l'équipage. Mais elle le fait si brutalement qu'elle est éjectée du traîneau qui continue de filer droit vers la salle. Confiant, rigolard et bientôt incrédule, Reinhardt voit l'eau noire foncer droit sur lui. Il y plonge sans un cri, lui qui ne sait pas nager, faisant preuve d'un courage dont, à en croire Maria, les spectateurs de la scène gardent encore le souvenir. La suite se devine. Le garçonnet, récupéré par un camarade de Maria, le retour au logis et la punition infligée à la collégienne. Punition dont Reinhard essaye vainement de la dispenser, expliquant qu'il est le seul coupable de s'être invité avec une telle imprudence dans les jeux des adolescents. À évoquer cette histoire et bien d'autres, frères et sœurs partent d'un même rire, tendre, joyeux, complice, que je reçois sans l'ombre d'une jalousie. C'est de la sème, c'est évident, mais d'un amour qui n'a qu'un très lointain rapport avec le sentiment que j'éprouve pour Maria. Je ne me sens pas exclu d'une connivence aussi manifeste. Il ne me laisse d'ailleurs pas à l'écart et m'invite gentiment à partager ses souvenirs comme si j'en étais moi aussi. Nous faisons durer le déjeuner autant qu'il nous est possible, puis nous étirons le temps, flânant sur le sentier qui longe la rive de la salle. Maria, d'autorité, me prend par la main, se glisse sous mon épaule, qui mande des lèvres un baiser que je lui délivre, sans plus me soucier de Reinhard qui marche devant nous en jouant avec une badine coupée d'un saule. La paix est en nous trois, chassant regrets et rancunes, évacuant les soucis. D'instinct, nous marchons d'un même pas, ralentis et comme un seul corps. J'ignore encore que cette enivrante journée, ce dimanche d'octobre, comme je n'en vivrai plus jamais d'aussi enchantée, sera sans lendemain. Je suis loin de me douter que le crépitement de la passion promise va s'éteindre d'un coup, soufflé par un grand vent venu, au paradoxe de ma tranquille Helvétie. Et lorsque nous regagnons l'hôtel, l'esprit bourdonnant de sentiments exquis, c'est sans inquiétude que je vois le concierge me tendre un télégramme. Les mots imprimés sur le rectangle de papier bleu me figent dans la glace. Père décédé ce jour, prière de rentrer de suite, condoléances, Wasserman. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Wasserman, fondé de pouvoir et bras droit de mon père, fait dans la concision. Je reste là, pétrifié, devant le comptoir de l'hôtel, jusqu'à ce qu'une main étonnamment douce se pose sur mon bras. Sans me retourner, je tends le télégramme à Reinhard. Un instant plus tard, le grand jeune homme mince me saisit aux épaules, me serre contre lui et murmure de cette voix dont je ne perçois plus les aigus. « So, mein Lieber, je suis très triste pour toi et je ne te laisse pas ainsi. Va préparer ton bagage, je m'occupe du reste. » Je regagne ma chambre en automate. Détaché de tout ce qui n'est pas le choc dans ma poitrine, je ne remarque pas Maria, tétanisée, à un mètre de moi. Maria, paralysée par l'immense malaise que suscite la mort, comme par l'embarras de se montrer inopportune. Elle ne me suit pas dans ma chambre, bien sûr, ce serait inconvenant. Impuissante, inutile, elle assiste aux démarches de son frère, qui se fait donner les horaires, train de nuit pour Munich, avec correspondance pour la Suisse. Reinhard m'y réserve une place en première classe. Il faut essayer de dormir un peu avant l'épreuve du lendemain, et vient lui-même m'aider à descendre mes valises. Comme un somnambule, je me laisse guider par ce long jeune homme calme qui prend les commandes de ma vie avec une prévenance et une maîtrise qui, en d'autres circonstances, pourraient m'impressionner. Lorsqu'enfin je prends place dans le luxueux compartiment et me laisse engloutir dans le fauteuil capitonné de velours rouge, il est encore là, sur le quai. Maria se tient en retrait. Tous les deux agitent la main, lui avec vigueur, elle avec résignation, jusqu'à ce que leur silhouette disparaisse dans une montée de vapeur blanche. C'en est fini de la petite. C'en est fini de l'une des plus belles journées que j'ai jamais vécues et qui me laisse à jamais une douce amertume, un regret, un remords. Au milieu de la page, un trait est soigneusement tiré, au-dessous duquel, de la même écriture fine, apparaît une nouvelle date. Septembre 1926, un grand saut dans le temps, 2 années de silence. Mais il se fait tard. Tout à sa lecture, Georg Hubert en a oublié de souper. Il referme le cahier, et dans un soupir, il se dit que demain, dimanche, sera un très bon jour pour renouer au plus vite avec le jeune banquier, désormais orphelin. Le vieux militaire n'a jamais su organiser ses dimanches. Lorsqu'il était en fonction, au contre-espionnage suisse, l'actualité se chargeait de décider de son occupation. Il était fréquent alors qu'un collaborateur l'appelât pour demander conseil ou information. C'est le propre des petites maisons que de solliciter le patron à toute heure, et dans le fond, il ne s'en plaignait pas. La retraite venue, qu'il veut studieuse, il balance toujours entre la raison qui commande le repos et la conscience qui lui dicte de boucler les travaux de la semaine. Cette dernière l'emporte souvent, comme si une voix intérieure l'avertissait que le compte à rebours avait commencé et qu'il ne fallait pas se mettre en retard pour le jour où, pour lui, tout cesserait définitivement. Ce dimanche-là, le prétexte était patent. comment ne pas s'avouer qu'il faut avancer vite dans la lecture du testament de Gottfried von Adler et qu'à laisser traîner les choses, il risque de perdre le sens du jugement qu'il lui faudra porter. Car c'est bien le service qui lui est demandé, au-delà de la tombe par le vieil aristocrate, et il semble de plus en plus improbable que ses cahiers soigneusement remplis recèlent quelques secrets d'État. Il pleut. Le jardin que pompeusement ou gentiment les voisins nomment le parc ruisselle de toutes ses branches sur la pelouse vallonnée. De quoi ôter à l'espion retraité ses derniers scrupules. Il regagne donc son bureau aussi sereinement que s'il avait toujours en charge la sécurité de sa chère confédération et reprend le cahier. La disparition de mon père a bouleversé ma vie, non seulement parce qu'au-delà d'attitudes réciproquement distantes, j'éprouvais admiration et attachement pour ce monsieur si bien élevé que jamais je ne le vis en caleçon, mais aussi en raison des responsabilités qui me tombent dessus alors que je n'y suis pas préparé. L'accueil qui m'est réservé dès la descente du train par Wassermann et le fondé de pouvoir Herberger m'avait mis la puce à l'oreille. L'enchaînement implacable de formalités confirme une décision paternelle dont j'ignorais tout, celle de me voir lui succéder au fauteuil présidentiel. Cette confiance, qu'il avait soigneusement tue, attendant le moment propice pour m'en parler, et ce moment qui n'est jamais venu, m'émeuve en ces jours-là, au-delà de toute expression. Soucieux de me couler au plus vite dans le moule forgé par plusieurs générations de von Adler, je me contrains néanmoins à n'en laisser rien paraître, au risque de susciter des commentaires du genre « Quel ingrat, il pourrait tout de même rendre grâce à son père » ou « Réalise-t-il vraiment le cadeau qui lui est fait ?» ou encore « Est-il seulement capable de diriger la banque, ce jeune diplômé parisien ? » Dans la famille, la fierté tient lieu de motivation. Elle nous fait avaler les pires obstacles. La mienne ne déroge en rien à cette tradition. Je me mets donc au travail d'arrache-pied, me laissant absorber, d'autant plus facilement qu'aucune attache familiale ne me sollicite. Penché sur mon labeur, j'en oublie tout le reste, à commencer par le sentiment tendre qui avait pris vigueur un jour trop fatal pour que j'aime à me le rappeler. Il s'en est fallu de bien peu, sans doute, une ou deux lettres restées sans réponse, un message non transmis, et Maria s'est imaginé que notre idylle, de quelques heures, n'avait aucune importance à mes yeux. Comment, en rédigeant ces lignes, dissimuler mon trouble et ma mauvaise conscience? Comment ne pas m'avouer à moi-même que j'ai, en ces mois-là, stupidement ruiné la plus belle, sinon la seule histoire d'amour qui me soit survenue? J'ai toute ma vie gardé, soigneusement classée dans mes papiers les plus personnels, la lettre cruellement adorable que ma belle Allemande me fit parvenir en novembre 1925. J'avais bien mérité la nouvelle qu'elle me transmettait, celle de ses fiançailles. Elle ne me fut pas moins cruelle pour autant. Ingénue comme j'étais, un peu fat aussi, j'avais sans doute rêvé d'une Maria soumise à l'attente de mon bon vouloir. Le réveil, assez rude, m'imposerait de m'arranger seul avec mon dépit. Je m'en suis si bien arrangé alors que j'ai brisé, une fois pour toutes et définitivement, quoique sans le savoir encore, le fil qui conduit au mariage la plupart des êtres moins rigides que je ne le fus et le demeure encore aujourd'hui. La banque prospère. L'exercice 1925, le premier que j'ai eu à boucler, a enregistré une progression de ses bénéfices. Le conseil d'administration, où ne siègent pas moins de trois cousins peu disposés à me faire des cadeaux, doit en prendre acte et m'accorder un satisfecit. J'ai mis au passage un point d'honneur à concrétiser les propositions identifiées lors de mon séjour à Leipzig. C'est ainsi que je trouve sur mon bureau un matin de septembre 1926 une lettre d'invitation pour l'inauguration à Solingen de la nouvelle manufacture d'armes que j'ai généreusement contribué à financer. Pourquoi ai-je aussitôt accepté ? C'est difficile à dire. Mon dernier séjour en Allemagne ayant coïncidé avec la mort de mon père, il me faut probablement effacer l'inconsciente superstition dont il est entaché. De même qu'il me faut conjurer le mauvais sort qui a détaché Maria de ma sotte personne. Quoi qu'il en soit, je prie aussitôt ma secrétaire, jeune et jolie italienne, qui de temps à autre m'accorde ses faveurs, de nous réserver deux chambres à l'hôtel de l'Opéra à Leipzig. Souvenir oblige. Lorsque je franchis, après 2 ans, les lourdes portes à tambour de l'imposante bâtisse, un sentiment ambigu me serre la poitrine. Le concierge n'a pas changé. Il me reconnaît, ou affecte de le faire. Mérite relatif, puisque mon nom et la qualité s'étalent sur son registre des réservations. Je joue le jeu, lui donne du cher monsieur en français pour faire plus chic, et n'omets pas de lui présenter Isabella, ma ravissante collaboratrice. Collaboratrice, Mitarbeiter, c'est le mot que j'utilise pour nous valoriser l'un et l'autre. Il serait de mauvais goût d'écorner l'honneur de la cour italienne. Je préfère jouer les entrepreneurs modernes qui accordent aux femmes intelligentes la place qu'elles méritent. Ma charmante compagne parle d'ailleurs un allemand presque parfait, et sa voix mélodieuse, avec un délicieux oubli de l'accent tonique, enchante les germanistes. Il a été prévu que notre séjour serait bref. L'inauguration est prévue en fin d'après-midi, le lendemain, suivie d'un dîner d'affaires. Voilà qui me laisse le temps d'un aller et retour à Salle. Curieuse impulsion pour un amoureux déçu. Que pourrais-je y trouver qui ne ravive en moi la douleur encore fraîche? Mais je suis fait ainsi. Je ne me résigne jamais à l'inconnu. J'ai besoin de savoir, toujours. Peut-être ai-je le souhait d'allumer à mon tour une flamme de remords chez celle qui pourtant ne m'a pas trahi, puisque je m'en suis chargé tout seul. La compagnie d'Isabella, que j'envisage de présenter en des termes ambigus, me serait une petite revanche. Je ne sais trop, en fait, ce que j'avais imaginé. Je brûle, quoi qu'il en soit, du désir d'effectuer cette visite à Halle. Ce qui ne m'empêche pas, bien au contraire, de me livrer avec ardeur aux ébats d'une nuit dans les bras d'Isabella. Quelques heures plus tard, nous arrivons tous deux à Halle, en taxi, dans l'immeuble bourgeois à la façade noire du lignite utilisé dans la région pour se réchauffer, je m'apprête à rencontrer non Maria, non Reinhard, absents l'un et l'autre, mais Elisabeth et Bruno Heydrich, leurs parents. Raide, pincée, méfiante, la mère me paraît aussi snob et sèche que je me l'étais imaginé au travers des propos de la fille. Le père, lui aussi, donne raison à Maria, amical, plein d'humour, il est le rayon de soleil d'une journée, en somme, décevante. De Maria, son adresse, le nom de son mari, je n'apprends pas grand-chose, sinon qu'ils vivent à Weimar. La très catholique Elisabeth, se comportant en duègne, étoisant d'un œil soupçonneux le jeune banquier luthérien dont, apparemment, ses enfants lui avaient parlé. De Reinhard, en revanche, sujet qu'elle développe avec un plaisir évident, je sais qu'il est désormais enseigne de vaisseau et qu'il a la confiance du commandant Canaris et qu'il a intégré l'école de yachting hanséatique que fréquentent les membres de la Reichsmarine noire, celle des nationaux-socialistes. Si je ne suis pas surpris de l'engagement du jeune homme dans les rangs de cet Autrichien, qui ne me séduisait guère, j'en suis un peu déçu. Et cela doit se voir, car Bruno Heydrich me tire de là avec une prévenance qui dénote l'homme de cœur. Le reste de nos échanges ne fait que confirmer la finesse, la profondeur, la générosité du musicien caché derrière une apparence banale, en même temps que la rudesse sur l'orgueilleuse façade de son épouse. Il me semble aller découvrir tous deux que, dans la distribution des gènes, Bruno s'est montré généreux avec Maria, tandis qu'Elisabeth, hélas, forgeait un garçon à sa ressemblance. Un griffonnage dans la marge attire l'attention de Georg Hubert. Il est manifestement postérieur à la rédaction de 1936. Gottfried y note. La disparition de Bruno en 1938 a peut-être influé sur le destin de la famille, sur celui de Reinhard en particulier. Quoique. Le vieil espion se surprend à hocher la tête, comme s'il devisait avec le comte, bien vivant, assis en face de lui. Il est de ceux qui estiment que l'on ne refait rien, surtout pas l'histoire, et n'extraire rien autant que ces pédants doublés de mauvais moralistes qui affirment et gênent. Ah, si les Anglais et Français n'avaient pas cédé à Munich, ou si le complot du 20 juillet, l'attentat de novembre 1939, avait réussi. Si l'on étudie vraiment la question, n'importe quelle question, l'enchaînement des causes et des effets, le nombre des paramètres à tenir en compte sont tels qu'aucun d'eux, finalement, ne semble décisif, au point qu'en son absence, on puisse dire qu'à coup sûr, tout en eût été changé. Non, insiste Georg Hubert, à aucun événement, aucune personnalité, aucun acte, on ne peut attribuer un tel pouvoir. Pour l'homme du renseignement suisse, la prédestination est un don de Dieu. Il n'envisage pas la création se passant de la volonté divine. Que serait un monde sans lui, sinon une mécanique folle et aléatoire? L'inéluctable existe, il en est persuadé, que seul le Créateur a le pouvoir de modifier, puisqu'il en est l'auteur. Reinhard Heydrich a eu le destin qui lui était attribué, et son père n'y était pour rien. Sur cette assertion muette, Georg Hubert reprend sa lecture.